Comme je l'ai dit, je reste dans le thème commencé la semaine dernière, ce thème de la consolation. Et j'introduis avec ce verset de l'Évangile, dans Luc chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Siméon, avec tout un groupe de croyants, de personnes pieuses, attendait la consolation d'Israël. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 40, j'avais lu la semaine dernière cette parole du prophète « Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Dites-lui que son péché est expié, que sa servitude est finie. Consolez, consolez mon peuple. » Après cette prophétie d'Ésaïe, il y a eu encore un certain nombre d'événements et de paroles données par les prophètes, le dernier étant Malachie. Il y a eu un retour partiel d'Israël dans sa terre, mais le pays est resté sous domination étrangère, avec les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains. Et c'est sous occupation romaine que Jésus est né. Et cela faisait 400 ans qu'il n'y avait plus eu de révélation, de parole prophétique, depuis Malachie, le dernier des prophètes. Et les croyants persistaient et continuaient à attendre la consolation promise. Consolez, consolez mon peuple. Et Siméon était de ceux qui attendaient la consolation d'Israël. Israël est le peuple phare de la Bible. L'expérience d'Israël était destinée à enseigner tous les peuples. Lorsque Siméon reçoit l'enfant, il proclame « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple, Jésus. » Le péché d'Israël n'est plus à démontrer. Les pages des prophètes sont pleines de réprimandes à ce sujet. La colère de Dieu a fini par se manifester sur le peuple qu'il avait choisi et enseigné jusqu'à produire l'exil. Mais avant même le châtiment, le Seigneur annonçait une grande consolation pour ce peuple. Pourquoi ce peuple-là pouvait-il escompter une consolation? Pourquoi est-ce que les croyants étaient tellement, après 400 ans, encore en train d'attendre la consolation d'Israël? Après tout, bien des peuples ont subi des châtiments qui n'ont pas été suivis de consolation. Pensons aux Incas, aux Mayas et autres Aztèques qui attendent toujours leur consolation, et bien d'autres peuples. Si Israël pouvait attendre avec assurance la consolation, c'est qu'il était le peuple réceptionnaire des promesses de Dieu pour l'humanité entière. La faillite d'Israël devait être relevée, soulignée, jugée, mais elle ne pouvait pas attenter au caractère de Dieu qui s'est toujours révélé fidèle à sa promesse. Il avait dit à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Promesse répétée à Jacob, Isaac et Jacob en particulier. En fait, la fidélité de Dieu envers Israël, un peuple obtus. Moïse dit un peuple au cou raide. Cette fidélité de Dieu était la démonstration préliminaire que quiconque dans le monde serait autant voulu mis au contact de Dieu pourrait être sauvé, quel que soit son état de délabrement moral. En vertu de quoi ? En vertu de la miséricorde divine. Ésaïe chapitre 55, verset 5, 51, pardon, verset 5. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Déjà dans ce passage, jugement et espérance en parallèle. Et plus encore, verset 6, « Levez les yeux vers le ciel, regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouissent comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches, mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. » Régulièrement, dans les prophètes sont intercalés des promesses pour tous les peuples. Mais d'abord, il fallait que cela passe par ce peuple choisi, ce peuple mis à part. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'il a prêché l'évangile, l'apôtre Paul dira, je vous lis dans l'épître aux Romains chapitre 1, son introduction au verset 16, et c'était le principe qu'a appliqué l'apôtre tout au long de son témoignage d'aller d'abord vers les Juifs. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le retour d'exil avait été annoncé par le prophète Ésaïe au chapitre 51 encore, versets 9 à 12. Réveille-toi, réveille-toi! Revais-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. » Voici ce que le Seigneur dit à son peuple. Il console ses rachetés. L'acte fondateur du salut d'Israël était un rachat, une rédemption. Il est impossible que Dieu soit mis en échec sur sa rédemption, parce que la rédemption était, par principe, dès le départ, un acte gratuit de sa part, qui ne dépendait aucunement de la vertu du peuple. Cette rédemption ira à son terme, elle sera toujours et pleinement efficace. Ainsi, le Seigneur annonce-t-il un temps nouveau, un temps de publication de sa victoire sur le péché des hommes. Toujours par Ésaïe, chapitre 52, versets 7 à 10. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. Il découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de Dieu. Il y a une œuvre de Dieu lui-même et il y a une publication de cette œuvre. Des messagers. Il faut que celui qui publie soit habilité, équipé et surtout totalement consacré à cette nouvelle qui doit impérativement atteindre ceux qui sont concernés. Ce fut le cas des apôtres de Jésus, de Paul qui était alors Saul de Tarse. Jésus déclare « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et ce fut fait. Et la première génération des chrétiens a fait en quelque sorte voler la semence de l'évangile dans le champ du monde entier. En une génération, en fait, les chrétiens sont allés jusqu'à l'extrémité de la terre, connue en tout cas à ce temps-là. Jusqu'en Inde, l'apôtre Thomas est réputé pour avoir atteint les Indes avec le message de l'Évangile. Et c'est encore la mission des églises aujourd'hui. Mais avant cette prédication des apôtres, et prioritairement, c'est le Fils de Dieu lui-même qui a annoncé la nouvelle. Il ne l'a pas envoyé du ciel par un ange, il est venu lui-même apporter la nouvelle. Il était lui-même la bonne nouvelle, et en même temps le prédicateur de la bonne nouvelle. Chapitre 61 du prophète Ésaïe, toujours. En fait, le prophète Ésaïe, c'est l'évangile avant l'heure. Hein. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Jésus s'est attribué ce texte au début de son ministère, puis il est allé le confirmer. Et comme l'apôtre Pierre le résume dans sa prédication aux païens, Jésus, vous avez entendu ce qui s'est passé au sujet de Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il doit souffrir pour mon nom, disait le Seigneur au sujet de Saul de Tarse, parce qu'à la rédemption de l'homme pécheur est liée la souffrance. La souffrance première de celui qui rachète et la souffrance seconde de celui qui publie le message, qui le propage, qui propage le nom du Rédempteur. Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme quelque chose qui ne reçoit pas et qui s'oppose à cette bonne nouvelle. Alors laissons la seconde souffrance pour l'instant et regardons à celle du Seigneur. La première rédemption du peuple, j'ai dit, était un acte gratuit. L'Éternel a envoyé Moïse, il est allé chercher ce peuple esclave en Égypte, malgré des manifestations d'incrédulité manifeste de la part des anciens du peuple, lorsque Moïse est allé leur dire que le Seigneur l'envoyait les délivrer. Mais Dieu est passé par-dessus le péché pour sauver et délivrer. Et c'est la Pâque, c'est l'agneau dont le sang a été mis sur les linteaux des portes pour que l'ange exterminateur ne touche pas au premier-né d'Israël en Égypte. Et puis ensuite, c'est la délivrance, le passage de la mer Rouge, avec ce chemin que Dieu a tracé lui-même au travers de la mer pour sauver ses rachetés. Mais donc, dès le commencement, les prémices de la résistance, de l'incrédulité, du mauvais cœur des Israélites étaient déjà manifestées. Et cela n'a pas cessé. Cette incrédulité et les désordres qui vont avec ne se sont pas arrêtés, au contraire. Ils ont été multipliés tout au long de l'histoire. Le péché a empiré, prenant des formes plus sournoises les unes que les autres. Ainsi est le cœur de l'homme, toujours à trouver le moyen de contester les voies de Dieu, à l'imaginer en tyran lorsqu'il a averti et conseille pour le bien, toujours à s'échapper pour ne pas être rejoint par les actes de justice du Très-Haut, toujours à esquiver la vérité. Or, le feuillet du calendrier du 15, il y a deux jours, 09, qui traite du sujet de la vérité, le met bien en évidence. La rencontre personnelle avec le Christ nous permet de faire la vérité sur nous-mêmes et en nous, et de venir à la lumière. Quand on parle de vérité, on n'affirme pas des vérités qui concernent les autres. La vérité de l'Évangile, lorsqu'on prêche que Jésus est la vérité, c'est la vérité qui vient nous rejoindre et nous interpeller chacun dans notre conscience. À cause du mauvais cœur des hommes, le Fils de Dieu a fini par venir lui-même. Il a paru, innocent et vrai, dans tout ce qu'il faisait et disait. Et là, alors que Jésus était à agir en pleine bonté, en pleine justice, en pleine fidélité, plein d'amour, la contestation a repris de plus belle, jusqu'à la négation de l'extraordinaire miséricorde de Dieu pour le peuple. Dieu était en train de manifester sa miséricorde envers son peuple et les dirigeants en tout cas, car le peuple pécheur accueillait la grâce du Seigneur. Mais les dirigeants, les hommes religieux, les hommes avertis, instruits de la loi et de la sainteté de Dieu, se sont opposés à Christ, l'ont contesté. Et c'est là que la rédemption a pris toute sa dimension. Au moment où mépriser, juger, condamner, flageller, moquer, clouer au bois, il aurait pu dire « Cette fois-ci, c'est bon, la démonstration est faite, ils sont allés trop loin, maintenant, Père, fais tomber ta condamnation, laisse-les se détruire et prends-moi avec toi à nouveau dans le paradis. » Vous croyez pas que Jésus aurait pu avoir comme réaction face à cet endurcissement, cette volonté de ne pas recevoir le message de la grâce que Dieu avait manifesté. Et au lieu de cela, dans ce moment crucial, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Autrement dit, je meurs par eux, mais je meurs pour eux, comme tu me l'as demandé. Voilà pourquoi je suis venu dans le monde. Sur la croix, le Christ a réalisé l'opération la plus improbable. Renverser la condamnation, l'encaisser lui-même pour que les coupables soient graciés. Mais Dieu montre son amour envers nous, rappellera l'apôtre Paul, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Consolation par le Christ, Jésus, mort pour nous. Siméon l'avait prophétisé. Oui, il avait dit, mes yeux ont vu ton salut. Je reprends la parole. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël, ton peuple. Et ensuite, il est dit, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui, Siméon les bénit. Et il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Souffrance, souffrance du Christ lui-même sur la croix, souffrance de celle qui a été employée pour sa venue au monde, qui était sa mère, et puis plus tard souffrance de ceux qui répandront la nouvelle. Mais une fois l'injustice des hommes transformée en acte de justice pour les sauver, le Christ pouvait retourner auprès du Père, jouir de la gloire à nouveau. C'est ce qu'il a fait, mais pour réaliser une autre opération qu'il avait annoncée à ses disciples, l'envoi d'un autre consolateur pour faire passer la consolation du salut dans les cœurs de ceux qui croiraient. Je reprends ces passages dans l'Évangile selon Jean, où trois fois Jésus parle de ce consolateur. D'ailleurs, c'est un mot qui est un peu difficile à traduire. Certains traduisent paraclète, en fait, c'est le mot, mais défenseur, avocat, enfin, c'est un terme assez large, mais qui est bon de traduire également, donc consolateur. Chapitre 14, versets 16 à 18. Bon, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et au chapitre, verset 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et puis au chapitre 16, les versets 5 à 8. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Nouvelle traduction disent « Il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. » Double rôle du Saint-Esprit, venir habiter le croyant. Jésus était à côté de ses disciples. Le Saint-Esprit vient vivre, vient faire vivre le Christ en nous et instruire le monde du message de l'Évangile. C'est aujourd'hui encore cela, l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'est pas donné à tous, mais à ceux qui croient. Et pour croire, il faut apprendre de Jésus. Alors, je terminerai avec l'Épître aux Romains au chapitre 10, où il est à nouveau question de ces prédicateurs de la bonne nouvelle, ceux qui font connaître le salut de Dieu et qui amènent la consolation de ce fait dans le cœur des croyants, car tous autant que nous sommes maintenant, nous pouvons faire la même expérience que celle d'Israël. Lui, ce peuple l'a faite sur 2000 ans d'histoire. Nous, et encore même encore maintenant, et nous le faisons dans notre courte histoire, nous pouvons faire la même rencontre avec le Dieu qui connaît notre péché, mais qui nous en délivre. Alors l'Épître aux Romains, chapitre 10, à partir du verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendraient-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Aujourd'hui, vous avez entendu la parole du Christ. La foi peut naître dans votre cœur et amener la véritable consolation de Dieu, celle qui fait que, quelles que soient vos fautes, vos erreurs, vos péchés, vous pouvez être pardonné et avoir l'assurance de la vie éternelle. Parce que Dieu vous aime gratuitement, avant toute chose. C'est son amour qui s'est dirigé vers vous, sans que vous ayez rien fait pour cela. c'est cela, la rédemption, le salut par l'Évangile. Amen.